Bonjour mes chers amis, je suis enthousiaste aujourd'hui de vous parler de ce printemps qui est déjà là, puisque nous sommes le 26 mars, le printemps est arrivé chez vous, dans nos cœurs, un peu partout il fait beau, les petits oiseaux qui chantent, eh bien écoutez, c'est tant mieux. Au microphone, Philippe Mollet, en compagnie de M. Bruno Guggenminetti, notre réalisateur que je salue. Et nous sommes, 91e émission, le 26 mars, ça passe, bientôt Pâques, au mois d'avril. Alors, aujourd'hui justement, puisqu'on parle de la thématique de Pâques, et je sais que vous êtes amateur de bonne nourriture, il y a toujours ce dilemme qui existe entre les consommateurs, à savoir si à Pâques on mange de l'agneau, du jambon, du chocolat bien sûr, mais est-ce qu'on est encore dans ces traditions culinaires qui ont longtemps bordé nos familles, un peu les familles traditionnelles. Si vous me posez la question de façon traditionnelle, je vais vous dire que les familles étaient plus enclins au jambon à Pâques qu'à l'agneau, mais ça a beaucoup changé. J'ai un chat là, qui me demande à manger, mais finalement je lui donnerai pas. Bon, il a déjà mangé ce matin. En tout cas, alors vous voyez qu'on vit à la bonne franquette dans une maison où tout se partage, même les animaux font partie du jeu. Pourquoi je vous reviens avec l'émission avec Pâques? Parce que c'est important de savoir un peu vis-à-vis de nos producteurs où on en est, puis qu'est-ce qui se passe un peu dans le secteur de l'élevage. Il y a au Québec des élevages de porcs, évidemment en abondance, puis je vous dirais que c'est encore une des viandes qui est vendue les moins chères là, sur les marchés. Quand je regarde un peu là, les prix de ce qui se pratique à droite à gauche, le prix du porc est vraiment très accessible si on compare par exemple au bœuf qui a pris des élans vers la lune là, c'est pas possible, les prix montent et l'agneau qui est populaire de plus en plus, mais il y a un frein par rapport à la commercialisation parce que l'agneau est devenu très cher. Je vous ai parlé dans une ancienne émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, du prix de l'agneau versus ce qu'on trouvait au Québec et ce qu'on retrouvait par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande sur nos marchés, puisque on importe beaucoup d'agneaux d'Australie ou de Nouvelle-Zélande qui arrivent à des prix très très compétitifs. Je vous avais dit que la raison est bien simple, d'abord la main-d'œuvre qui est plus chère, mais c'est parce qu'on produit beaucoup plus sur des espaces, donc des quantités avec lesquelles on est capable d'exporter. Puis ce n'est pas une question de salaire, là, on ne parle pas de pays sous-développés, on parle de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, là, où les salaires sont identiques ou presque. Alors imaginez-vous, en plus du transport, on arrive moins cher. Donc on n'est pas capable de rivaliser à ça actuellement au Québec, donc il y a un choix à faire. Et ce qui n'était pas vrai jadis, c'est-à-dire qu'on disait toujours « Ah, l'agneau du Québec est meilleur et meilleur », aujourd'hui ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, je dois vous dire, pour avoir fait des tests de consommateurs de goût, l'agneau de Nouvelle-Zélande ou d'Australie est aussi bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une demande très forte dans les communautés ethniques pour du chevreau, même, de l'agneau. Je parle des Italiens, les Portugais, les Français, les Belges et autres francophones de ce monde vont toujours adorer l'agneau à Pâques parce que ça fait partie des traditions. On va le servir avec des flageolets verts ou avec des haricots, ou avec des fèves, avec des pommes de terre. Donc ça fait partie de la tradition, mais le jambon reste encore une belle alternative au niveau du bloc de jambon qu'on va cuire au bouillon, quelquefois avec de la bière, quelquefois avec de l'érable puisqu'on est en plein dans le temps des sucres. Donc on va servir à Pâques et qu'on va servir avec les garnitures que vous connaissez. Le chocolat, ça fait partie là aussi encore des traditions familiales et on ne passe pas outre. Quand je vois ce qui a été développé rien qu'au niveau des supermarchés, ce qu'on retrouve comme chocolat, et encore là, vérifier l'étiquetage. Souvent, quand je vois sirop de chocolat, sucre comme premier ingrédient, je me pose des questions, y compris dans les pharmacies. Jean Coutu, il peut bien être notre meilleur ami, mais quand il vous sert du sucre en premier, c'est pas compliqué parce que eux, à côté, pour contrer le sucre, ils ont ce qu'il faut dans la pharmacie. Alors, pour ça, en tout cas, c'est une mauvaise langue que je suis. Ah, c'est pas possible. Mais ceci dit, bien lire l'étiquette et quelquefois, vous êtes mieux de payer un petit peu plus cher, manger moins gros au niveau du chocolat, puis acheter du bon chocolat pour vos enfants avec moins de sucre, il en existe, ou de faire attention à ce qu'il y a dedans comme colorant alimentaire, souvent là, des abus de colorant alimentaire. Donc, oui, jambon, ça va rester. Oui, l'agneau, ça va rester, même si l'agneau, par exemple, de Nouvelle-Zélande est beaucoup moins cher, puis qu'on en trouve sur le marché. Les gens vont faire l'effort de manger plus québécois au niveau des agneaux entiers ou par exemple des communautés ethniques. Et oui au chocolat qui est là pour rester notamment avec les enfants et encore faire partie de cette tradition de Pâques. Donc voilà. En Europe, on dépense de moins en moins pour l'alimentation. Il y a une étude qui vient de sortir dernièrement avec le groupe Nielsen sur les habitudes de consommation alimentaire en Europe. Et on s'est rendu compte que les Européens, j'englobe les Espagnols, les Italiens, les Français, les Belges, les Luxembourgeois, consomment moins pour leur alimentation qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent profiter des loisirs. Et ça fait partie de ce qu'on découvre, par exemple, au niveau de l'alimentation, où les gens vont dire, bon, ben, je préfère faire un repas plus léger le midi, manger moins, et puis garder de l'argent pour aller au ski, pour aller en vacances l'été. Et ça, c'est une habitude qui est en train de croître en ce moment au niveau de la philosophie des Européens. Ça inquiète les producteurs, évidemment, parce qu'on se rend compte qu'avec la mondialisation, on découvre aujourd'hui des produits de partout. Vous avez vu les crises subséquentes qui existent en Europe avec les agriculteurs qui maintenant se chicanent pour ne pas avoir des tomates d'Espagne qui viennent inonder le marché français ou le marché belge, les poulets d'Ukraine qui viennent inonder le marché français. Donc il y a, on parle de l'Europe, mais il y a une disparité qui existe quand même très forte au niveau de l'alimentation et ça pose beaucoup beaucoup de questions là sur le futur. Donc, les gens vont dépenser moins pour leur alimentation. Vous savez, dans le temps, là, les gens, ils étaient de coutume de passer 4 heures à table, 3 heures à table en Europe, hein. Pour faire des grands repas en Italie, moi, je me souviens, c'était le premier piatti, c'était des pâtes, et puis après, on restait 3 heures à table à manger. Et quand vous sortez de là, vous avez plus faim, là, vous avez envie de couler, de dormir, mais on vous dit, bon, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'était donc des habitudes de consommation très fortes qui ont maintenant sont restreintes et la vie actuelle est. Le fait que les restaurants soient ouverts tout le temps, on ne s'arrête plus nécessairement dans le temps de midi pour manger dans les grandes villes comme on le faisait avant. Donc tout ça a joué là sur le comportement alimentaire et le comportement d'achat des sociétés diverses. Voilà. Alors ça, c'est pour ce qui touche à la consommation. Donc c'est sûr qu'il y a une alerte en ce moment et je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de cette évolution. Maintenant, quand on parle de la consommation, savez-vous qu'il y a un recensement qui a été fait au niveau des supermarchés du Québec et on s'aperçoit que le produit le plus vendu en ce moment au Québec dans les supermarchés, c'est la viande hachée. Alors ça a encore des signaux là qui montrent qu'il y a moins d'intérêt ou moins d'argent pour acheter des produits entiers. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la viande hachée? Ils vont faire des burgers, mais ils vont faire aussi des farces, des pâtés chinois, des choses comme ça. Encore là, je vous dirais, le seul problème qu'il y a et qu'il faut contrôler, c'est la qualité de la viande hachée. Parce que si vous prenez un morceau et que vous dites à votre boucher de le hacher devant vous, ça va. Mais quelquefois, il y a du réemballage qui se fait, il y a des viandes qui n'ont pas été vendues, qui sont hachées 3 jours après. Donc il y a un contrôle à formuler là au niveau d'hygiène, de salubrité alimentaire. Et ça, souvent, je dis au MAPAC, soyez plus vigilants parce qu'on voit des choses qui se passent. Moi, je le vois. Dans les supermarchés, des choses qui se passent sur le réemballage, même si c'est interdit, eh ben ça se fait encore. Alors, il faut être vigilant par rapport à tout ça. C'est très très important parce que la viande hachée, et c'est pour ça une des raisons pour laquelle on dit de bien la cuire, hein, pour éviter des bactéries comme le E. coli ou la salmonelle dans certains cas, pour notamment d'autres viandes comme le poulet et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment être vigilant là, par rapport à votre alimentation. Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger de viande hachée, mais sachez ce que vous mangez. Toujours, toujours le même message qui revient. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et surtout de bien penser que quand vous achetez, posez des questions. Posez des questions à vos vendeurs pour savoir. Et puis si vous n'avez pas les réponses, ben c'est à vous de vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Maintenant, il y a une chose qui me vraiment fatigue et de plus en plus ça me fatigue parce qu'on voit tous les jours une disparité entre les salaires de la salle à manger dans les restaurants. On voit aussi le nombre croissant de restaurants qui ferment à Montréal comme ailleurs, à Québec, un peu partout au Québec. Et on s'aperçoit que le gouvernement n'est pas capable de légiférer sur les pourboires en restauration. Ils veulent pas, je sais pas pourquoi, je comprends pas, mais il y a tellement d'abus et que ça devient fatigant, énervant. Vous pouvez pas. Moi, j'ai vu là, j'ai fait le tour d'hôtels, de restaurants, et j'ai vu combien gagnaient en ce moment. Ils vont pas m'aimer. Hein, ils vont pas m'aimer les serveurs de ces restaurants. Et quand je rentre dans un restaurant, maintenant, il faut que je fasse attention devant et derrière moi. Ils vont me tuer si ça continue. Mais ils vont pas m'aimer. Mais c'est la vérité. Et ça prouve pas qu'on fasse un service de qualité. Parce que peu importe que vous fassiez un service de bonne, pas bonne qualité, maintenant, certains exigent le 18% d'office. Moi, je ne suis pas d'accord du tout, du tout, du tout, ni le 20%. Et je connais, j'ai des amis autour de moi avec qui je suis souvent en disparité, avec qui je me fâche même. Je dis, arrêtez de donner 20%, après ça devient un fait acquis et les gens ne veulent plus avoir moindre que cela. Donc c'est une des problématiques. Alors, il y a des salaires, des écarts de salaire. Je l'ai vu, hein. Ce que je vous donne, c'est de la vérité. Je connais des serveurs, je ne dis pas que je suis contre le fait qu'ils gagnent de l'argent, ce n'est pas ça, mais si je compare avec les autres éléments dans la cuisine, c'est-à-dire les cuisiniers ou les plongeurs, il y a parfois 50 000 $ de différence pour le même travail. Je connais des serveurs à Montréal qui travaillent dans des hôtels qui font plus de 100 000 $ ou dans des grandes chaînes de café qui font 90 000 $ de salaire par année. Rien qu'en pourboire, ils vont chercher un complément qui est absolument incroyable, inimaginable. Alors, si c'était réglementé de façon à ce qu'il y ait un partage équitable, ben, ça créerait peut-être moins de disparités et on ne serait pas en train de chercher du personnel comme on cherche à tout prix dans les restaurants qu'on n'est pas capable de trouver. Donc, vous voyez, des restaurants qui ferment ou qui baissent la qualité de cuisine parce qu'ils vont vers une standardisation. Ça veut dire quoi ? Ben, qu'on cuisine de moins en moins. Donc, on achète des plats tout préparés, tout faits par des grandes multinationales et qu'on fait tout simplement du réchauffement de produits. Alors, encore là, je dis, il faut être vigilant parce qu'à quoi ça sert d'avoir des écoles hôtelières si, dans le fond, on n'est plus capable d'avoir des cuisiniers. Vous savez, ça aussi, c'est une autre affaire, hein. Quand on fait un cheminement sur ce qui se passe dans les écoles hôtelières, sur 150 candidats, que 3 ans ou 4 ans après, on en retrouve 27 dans le milieu du travail, faut quand même se poser des sérieuses questions par rapport à tout ça. Je sais que c'est pas facile, mais il faut aborder le sujet et j'aimerais beaucoup que le gouvernement prenne le relais et se dise à un moment donné, oui, il faut faire quelque chose parce que la situation est grave. Quand on n'est plus capable de remplir les écoles d'hôtellerie, d'élèves, ben, posons-nous certaines questions par rapport à tout ça. Mes chers amis, je conclue sur cette note positive, c'est Pâques qui arrive, donc c'est le chocolat comme on disait, et puis aussi, n'oubliez pas, c'est que bientôt on va pouvoir planter nos affaires, bientôt, dans 3 semaines, un mois quand même, il faut attendre les derniers gels, là, parce qu'on dit toujours que jusqu'à la fin avril, on ne te découvre pas d'un fil, ben, je vous souhaite une belle semaine, et puis j'ai bien hâte de vous retrouver. Allez, merci pour tout, votre soutien, et passez une belle semaine, et mangez bien. Bye-bye.